La langue française et les femmes, avec Bernard Cerchilini et Bérénice Levet. En ce début du XXIe siècle, lit-on dans le dernier rapport de l'Académie française, tous les pays du monde, et en particulier la France, et les autres pays entièrement ou en partie de langue française, connaissent une évolution rapide et générale de la place qu'occupent les femmes dans la société, de la carrière professionnelle qui s'ouvre à elles, des métiers et des fonctions auxquels elles accèdent sans que l'appellation correspondant à leur activité et à leur rôle réponde pleinement à cette situation nouvelle. Il en résulte une attente de la part d'un nombre croissant de femmes qui souhaitent voir nommer au féminin la profession ou la charge qu'elles exercent et qui aspirent à voir combler ce qu'elles ressentent comme une lacune de la langue. La vieille dame du Quai Conti, comme aiment à dire les éditorialistes toujours friands de périphrases, a voulu répondre à cette attente en homologuant les formes professeur E, auteur E ou autrice, maîtresse de conférence et chef CHE2FE. Cet aggiornamento tardif a réjoui le linguiste Bernard Cerchilini et attristé la philosophe Bérénice Levet. Je demanderai donc à chacun, si ce neutre m'est encore permis, de justifier sa position. Et d'abord à vous, Bernard Cerchilini. En quoi le jumelage systématique du genre grammatical avec le sexe est-il une victoire pour les femmes et pour la langue ? Bernard Cerchilini.
C'est une victoire pour les femmes qui ont dû, pendant des générations, subir un masculin de leur titre. C'est une victoire pour la langue qui est reconnue fidèle à son fonctionnement. C'est une victoire pour l'académie qui, dans sa sagesse, dans son intelligence et dans sa fonction de greffière de l'usage, a reconnu le fonctionnement normal de la langue. En français, depuis toujours, et sauf d'infimes exceptions qui peuvent toutes s'expliquer historiquement, l'appellation correspondant à l'activité, pour citer l'Académie comme vous venez de le faire, des hommes et des femmes est liée à leur sexe. Boulanger, boulangère, chanoine, chanoinesse, ambassadeur, ambassadrice, jusqu'à la fin du XVIIe siècle pour une femme chargée d'une ambassade. Que s'est-il passé ? En deux mots, il s'est passé, à partir du XVIIIe siècle, une catastrophe sociale. Les femmes n'ont plus accès à bon nombre de professions qui donc, occupées par des hommes, ont toujours eu un titre masculin.
Et c'est-à-dire que les femmes étaient souvent ambassadrices avant le XVIIe et XVIIIe siècle ?
Mais bien sûr, pas souvent. Il y a eu des femmes ambassadrices. Dans mon livre, je cite leur nom. Et vous avez lu Saint-Simon, moi aussi. Saint-Simon cite des femmes ambassadrices, chargées d'une ambassade. Et le dictionnaire de l'Académie française, dans sa première édition de 1694, donne comme définition d'ambassadrice « femme chargée d'une ambassade ». À partir du XVIIIe siècle, ce dictionnaire ne donne plus que « épouse d'un ambassadeur », ce qui est le cas du dictionnaire actuel. Donc, les professions étant seulement occupées par des masculins, leur titre s'en est masculinisé. Et quand les femmes, enfin, ont eu accès à ces fonctions, eh bien, dans un premier temps, maladroitement, elles ont dû utiliser le terme masculin et se dire « Madame l'ambassadeur, Madame le ministre ». L'Académie française, qui, pour des raisons sur lesquelles nous pourrons revenir, avait oublié l'histoire de la langue, a validé ce masculin, prétextant qu'il était neutre. Mais ça n'a pas pu tenir. Cela a tenu en France une trentaine d'années et l'usage est revenu au cours normal de la langue et les femmes chargées d'une ambassade sont ambassadrices. Voilà, c'est tout simple à résumer. Je me réjouis que l'Académie soit la greffière d'un usage que je trouve juste, bon, morphologiquement conforme à la langue et socialement valorisant.
Bérénice Levet.
Alors évidemment que j'interprète d'abord cette décision de l'Académie comme une reddition, une véritable capitulation et la hantise d'être en retard sur leur temps.
C'est intéressant parce que, je vous interromps une seconde, Bérénice Levet, ce mot de reddition...
Si on nous l'utilisons tous les deux, nous l'utilisons tous les deux.
Je l'ai trouvé dans votre article, effectivement.
Alors vous, vous réjouissez de la reddition, moi je l'interprète comme une capitulation.
C'est très drôle, nous avons tous les deux publié un article, vous dans le Figaro, moi dans Le Monde, au même moment, vous pour déplorer l'adjournamento, moi pour m'en réjouir.
Voilà. L'autre point, c'est que j'y vois l'indice d'un avènement et de la confirmation d'un féminisme identitaire qui se substitue au féminisme qu'on dit à la française, un féminisme universel. Je pense que nous reviendrons sur ce point. Le troisième point, c'est que là, les féministes et l'académie avec elles et avec eux se comportent comme des éléphants dans un magasin de porcelaine parce que la langue est dans un très mauvais état. Autre point, c'est que j'y vois quand même une conception dégradée et dégradante de la femme qui, telle des chiens de Pavlov, aurait besoin de signaux sexués pour se sentir concernée. Donc, si vous ne leur parlez pas de citoyenne, la Constitution n'aura plus rien à leur dire. Et puis, bon, vraiment l'ultime point, c'est que derrière tout cela, il y a un véritable problème avec le passé. Hein. J'aime à citer cette phrase d'Anna Arendt, mais toute époque pour laquelle son propre passé est devenu problématique à un degré tel que le nôtre, doit se heurter finalement au problème de la langue, car dans la langue, ce qui est passé a son assise indéracinable. Et elle a cette phrase qui vous concerne indirectement, Bernard Serghiglini. C'est cela que les linguistes qui attaquent la langue comme l'unique bastion du passé ne comprennent pas. À mon sens,
attendez,
vous le comprenez trop
Bérénice
bien.
Bérénice Levet, ce que dit Bernard Serghiglini, c'est que il y a un passé avant le passé classique, et ce passé-là faisait plus droit au féminin que.
Oui, c'est un argument qui me frappe parce que, alors, d'un côté, on nous dit que notre monde est totalement sexiste, que nous héritons d'une histoire où les femmes n'avaient aucune place, et puis à la faveur de cette discussion, là, nous découvrons que finalement, elles occupaient toutes les fonctions. Alors.
Bernard Serghiglini.
Je n'ai fait que vérifier avec des documents et des éléments venus de l'histoire de la langue ce que les historiens ont vu depuis longtemps, c'est-à-dire ce qu'on pourrait rappeler en termes foucauldiens, le grand renfermement des femmes dans la société bourgeoise du XVIIIe siècle. La langue le prouve. Une présidente chez Laclos, c'est l'épouse d'un président. Se met en place au XVIIIe siècle le féminin conjugal. Et donc, les femmes sont exclues, et on le voit dans la langue. La langue, auparavant, reflétait davantage de liberté féminine, davantage d'accès aux professions.
Alors, une petite remarque à l'adresse de Bérénice Levet. Nous reparlerons de ce rapport de l'Académie française, que j'ai lu attentivement. Même si je n'ai pas voté en sa faveur, ce rapport est quand même suffisamment nuancé, car l'Académie française dit « La langue n'est pas un outil qui se modèle au gré des désirs de chacun, mais bien une réalité soustraite à toute modification autoritaire. » Ça, quand même, l'Académie française le dit. Mais, justement, ce que l'Académie dit aussi, et qui va un peu à l'encontre de certaines de ses recommandations, et de ce que vous dites, Bernard Serghiglini, c'est ceci. L'imposition de normes rigides en matière de féminisation méconnaît le souhait exprimé par certaines femmes de conserver les appellations masculines pour désigner la profession qu'elles exercent. Et l'Académie ajoute, les femmes membres du barreau répugnent très largement à être appelées avocates, bien que cette forme soit reçue dans l'usage courant de longue date et ait été enregistrée par les dictionnaires. Et j'en suis témoin. Nombre de femmes, en effet, se disent avocat à la cour. Pourquoi ? Eh bien, j'en ai trouvé la raison dans votre livre, Bernard Serghiglini. Vous faites une très belle citation de Marc Fumaroli, « La transcendance des titres ». La fonction n'est pas l'usage, le masculin en ce sens est perçu comme le neutre, et c'est donc un titre que ces femmes revendiquent. De même, ambassadeur, la féminisation de ce métier est spectaculaire ces dernières années, et quand on est soi-même invité dans une ambassade, on rencontre plus souvent une femme ambassadeur qu'un homme, que ce soit en Croatie, en Allemagne ou ailleurs.
Et vous lui demandez comment elle...
Et elle veut, enfin celle que j'ai rencontrée, tienne absolument au titre Madame l'ambassadeur. Et je ne crois pas que ce soit, alors pour le coup, une capitulation devant le règne du masculin. C'est justement pour maintenir cette distance du titre, du rang et de la personne. Et Claude Habib me faisait remarquer qu'effectivement, la féminisation des noms de profession n'a posé aucun problème pour les professions subalternes, mais qu'il est devenu un problème insurmontable à l'étage supérieur. Mais c'est précisément parce qu'à l'étage supérieur, il s'agit d'un titre. Et ce titre, les femmes y tiennent. Et le rabattement, comme ça, de la fonction sur la personne, du paraître sur l'être, eh bien, on peut considérer que c'est une déperdition, même dans la perception que nous avons de nous-mêmes et les uns des autres.
Mmh. Oui, nous n'avons pas fréquenté les mêmes ambassades, puisque la plupart des femmes jeunes nommées dans les ambassades se font appeler Madame l'ambassadrice. Il n'y a aucun problème. Bon. Madame la consul générale, ainsi de suite. C'est une question de génération, simplement. Vous défendez la position ancienne de l'Académie.
Oui. La position que vous détestez, c'est la position du Mésil Lévi-Strauss. Voilà.
Que je ne déteste pas, que je critique.
Oui, que je critique.
Bien sûr.
Enfin,
oui. On a le droit de critiquer des thèses.
Non, bien sûr.
Surtout à ce micro. Donc je critique la thèse du Mésil Lévi-Strauss. J'ai le droit.
1984.
Bien sûr, naturellement. Elle ne tient pas. Et d'ailleurs, elle n'a pas tenu, puisque l'Académie française s'en est débarrassée. Ce que je veux dire, c'est que, vous dites, pour les fonctions importantes, qui sont des fonctions, elle est seule. Sont des fonctions. Vous ne parlez pas du conseiller municipal, vous ne parlez pas de l'inspecteur des impôts, vous parlez du ministre, du recteur, du préfet. Il y a du neutre. Il y a du neutre quand on rédige un texte de droit au générique. Le préfet est habilité à, le ministre doit... Mais quand on parle d'une personne particulière, ce ne peut pas être du générique. Une femme, elle est ambassadrice dans des fonctions d'ambassadeur. La langue est très riche. Vous comprenez, une personne désignée est forcément désignée selon son sexe.
Oui.
Et de fait, c'est l'usage. Je termine, madame, vous avez dit que l'Académie n'est pas la greffière de l'usage, mais de revendications idéologiques. Je ne suis pas d'accord. La féminisation est en usage au Québec, en Belgique, en Suisse.
C'est du Québec que nous sommes inspirés d'emblée pour être entraînés justement dans ce processus de féminisation de la langue.
Et alors les Québécois ne parlent pas français ?
Ah ben ils parlent un autre français que le nôtre.
Puis il y a une idéologie égalitariste et multiculturaliste quand même très forte au Québec. C'est pas faire injure aux Québécois, que par ailleurs j'aime beaucoup.
Mais moi aussi. Et le Parti québécois, en gagnant les élections en 78, a libéré des mouvements sociaux qui ont fait que les femmes au Québec ont voulu que leur féminité transparaisse dans leur profession. Le mouvement s'est poursuivi en Belgique, en Suisse et tardivement en France. Donc c'est un usage général. Deuxièmement, remarquez que l'usage, je l'ai dit, de lier la profession au sexe est ancien. Alain Finkielkraut vient de le rappeler, et il est dans la langue. Vous avez cité « chef » au féminin, que Littré déjà avait noté. Mais il y a belle lurette que dans les usines, on dit « ma chef est une peau de vache ». Pareil, quand les écrivains que nous aimons tous jouent avec les mots, qu'inventent-ils ? Une pinquette, une fliquette, une gendarmette. C'est dans la langue de féminiser les professions et les titres.
Non,
c'est clair,
justement,
c'est dans l'usage.
Je crois que cet attachement au neutre, précisément, pour les fonctions, renvoie à cette liberté, ce pas de côté que l'on peut prendre par rapport à l'assignation à un sexe. Et donc, il y a des activités où l'appartenance sexuelle est indifférente. Et justement, alors moi, en revanche, je me réfère à Claude Lévi-Strauss et Dumézil. Ils parlaient justement, ils appelaient encore, hier encore, le droit à l'indifférence juridique et politique au sexe des individus. Donc ce droit à l'indifférence, il est... Pourquoi moi je refuse absolument d'avoir un E à professeur ou à docteur ? Eh bien précisément parce que je veux jouer de cette possibilité de s'extraire, de faire un pas de côté. J'aime cette idée.
Alors, d'ailleurs, en effet, Dumézil et Lévi-Strauss partent d'un genre non marqué pour le masculin. Dans certains cas, ils donnent des exemples, notamment au pluriel. Et bien sûr, mais tous les hommes sont mortels. Cette ville compte 200 000 habitants. Tous les candidats ont été reçus à l'examen. Les habitants de Paris, la vie des paysans au Moyen-Âge, mes proches parents. Et Dumézil, que vous citez également dans un article du Nouvel Observateur, le masculin ne conquiert pas l'autre sexe, il efface le sien, c'est simplement un moyen grammatical d'éviter les longueurs. On n'a pas besoin en toute occasion de dire des Françaises et des Français. Et j'ai envie d'ajouter, on n'a pas besoin de dire en toute occasion celles et ceux, chacune et chacun, toutes et tous. Ce n'est pas un égard, ce n'est pas une attention, c'est une répétition machinale qui, c'est du mécanique plaqué sur du vivant.
Bergson.
Ouais, c'est Bergson. Donc, on est plutôt dans le comique dans l'attention due aux femmes.
Bien sûr. Alors, Bernard Serkeling. Vous avez cité Thumézil, qui a, dans sa formule de l'Observateur, a presque bien vu les choses. Il y a du générique, il y a du spécifique. Les individus sont tous spécifiques. Bien. Qu'est-ce que le générique ? En français, comme il y a pour les animés que du masculin et du neutre, on vide le masculin quelque peu de sa masculinité. Au pluriel notamment. Et je remarque que l'Académie ne prend que des exemples au pluriel. C'est évident. Quand je dis « les Français ont voté hier », c'est un masculin, car ce n'est rien d'autre, mais qui est, on le dirait en sémantique, quelque peu vidé. Donc, on l'entend comme un masculin. Mais il reste un masculin. Si je dis 43% des Français de plus de 60 ans font du sport, générique, et n'ont aucun problème de prostate, spécifique. C'est-à-dire que le masculin miroite. On peut le vider. Et donc, à nous de savoir, nous, locuteurs, si on a besoin de le laisser générique, tous les Français, les voyageurs sont priés de descendre, ou si il garde sa vocation masculine, et dans le cas, on dira, tous les candidats et toutes les candidates sont priés de passer une épreuve de lancer du poids. Vous voyez, le sémantisme de l'opposition masculin-féminin est très subtil.
Il est très subtil, mais ce que vous dites est très intéressant, Bernard Serkeling, mais il semble aujourd'hui que cette subtilité soit totalement oubliée. Lorsque, à l'Académie française, ce rapport a été mis au vote, j'ai pris la parole pour dire, ce rapport a ses mérites et ses défauts, il y a peut-être une adaptation absolument nécessaire, parce que, notamment, vous dites, l'Académie française, vous citez un communiqué de l'Académie française absolument invraisemblable concernant Aïssa Djebbar.
Je vous lis, si vous avez une minute. Vous avez vendu la mèche, mais voilà, les auditeurs ont oublié. Je vous lis. Le secrétaire perpétuel et les membres de l'Académie française ont la tristesse de faire part de la disparition de leur confrère, XX, chevalier de la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre des arts et lettres, décédé. Et le 6 février 2015, le XX de ce texte entièrement masculin, c'est
Aïssa Djebbar,
qui était une femme.
C'était une femme, et je crois que le mot confrère a été appliqué aussi à Simone Veil. Donc là,
mais avec un décédé au féminin. Oui. Donc on avait déjà une sorte d'agirmanmento de l'Académie léger.
Progressif. Voilà. Donc, progressif. C'est vrai, l'Académie française devait s'adapter, mais j'ai dit, j'aurais aimé que cette déclaration soit précédée d'un requiem pour le neutre. Le neutre, on ne l'entend plus. Et c'est précisément parce que l'on n'entend plus qu'on a du celles et ceux, du toutes et tous et du chacune et chacun tout le temps. Et c'est parce que l'on n'en entend plus aussi que j'ai entendu ce vendredi, à la très belle émission d'Emmanuel Laurentin, un historien invité parlant d'une éditrice et la désignant comme pédégère. Et PDG, alors ça ne veut strictement rien dire en français, parce que président, directeur général. Mais voyez, donc il y a une folie de la féminisation systématique, parce que nous avons oublié le neutre et que nous voulons, contrairement à ce que vous souhaitez vous-même, Bernard Serkeling, mettre du sexe partout.
Non, PDG, non, attendez, permettez-moi quand même.
PDG, ce n'est pas du neutre, c'est un néologisme de quelqu'un qui cherche un suffixe féminin.
Pour éviter le neutre, pour éviter le neutre tout le temps.
Non, mais je crois que c'est plus grave encore que la disparition du neutre ou l'oubli des vertus du neutre. C'est que cela témoigne de ce refus de l'universel qui est en train d'investir toutes les sphères de l'existence. Nous sommes devenus incapables de concevoir cet universel. Donc, je crois que c'est vraiment pas une question formelle, c'est une question essentielle.
Mais qu'est-ce que vous répondez, Bernice Levet, quand on vous dit, pourquoi faut-il que l'universel se dise au masculin?
Mais c'est quand même très bien expliqué par Claude Lévi-Strauss et Dumézil. Il se trouve que partant de la forme latine, on a opté pour cet usage du masculin à vocation générique. Bon, c'est là voilà, le passé est en jeu. Nous héritons. Je crois que c'est aussi ça la grande différence entre nous, c'est que la langue est un héritage, nous en sommes les dépositaires et on n'en dispose pas. Il est vrai que tous les réformateurs de la langue se sentent davantage les coudées franches par rapport à cet héritage.
Ce n'est pas une réforme de la langue, c'est le retour à un usage normal, le jumelage de la profession et du sexe. Simplement, l'Académie a reconnu la chose. Et vous dites universel, vous avez raison, il y a de l'universel, il y a du générique qui se dit au pluriel, qui peut se dire avec un masculin, pour des raisons tout de même qui datent de l'indo-européen. Je veux dire que le sexe fort a été valorisé depuis toujours. C'est comme ça que nous en avons hérité. Mais cela reste du masculin, je l'ai prouvé tout à l'heure. Donc à nous d'utiliser le spécifique ou le générique. En effet, je suis fatigué moi aussi par celles et ceux quand ce suffit. Mais parfois, il est nécessaire de bien montrer qu'un groupe humain est sexuellement mixte. Parfois, il est nécessaire de dire parfois. Tous les voyageurs et toutes les voyageuses sont priés de descendre. Mais la plupart du temps, tous les voyageurs suffit. C'est du sémantisme, de l'usage subtil de la langue.
Oui, mais tout ça pose quand même un problème. Cette expression « jumelage » du genre grammatical et du sexe, je l'ai trouvé dans votre livre, Bernard Cerchini.
De la profession et du sexe. Et donc, oui. Et donc du genre.
Par du genre. Et donc du genre. Mmh. Parce que, d'ailleurs avec une grande honnêteté, vous voyez que dans la langue, il y a des exceptions. Il y a une part d'arbitraire. On dit un mannequin, on dit une sentinelle, on dit une recrue, on dit une ordonnance, vigile. Une estafette. En plus, ce sont des métiers extrêmement virils.
Viril.
Et les sentinelles ne se plaignent pas, elles ne demandent pas de passer au masculin, elles acceptent cette réalité. Alors, faudrait-il, puisqu'on sexualise tout, que les hommes eux-mêmes se révoltent? Et quand, par exemple, au Québec, on remplace les comités des droits de l'homme par le comité des droits de la personne.
Oui.
La personne, je veux pas être déclinée au féminin. Vous voyez, après tout, on pourrait s'attendre aussi à une revanche de la virilité sur cette féminisation abusive. Et pour des grands titres aussi. On parlait des titres. Son Altesse, Son Éminence, Sa Majesté. Qu'est-ce qu'il faut dire? Son Éminent, son Alt, Son Majestueux. C'est ça l'héritage. Et qu'est-ce que vous en faites de cette part féminine du neutre, si j'ose dire?
Mais vous savez qu'il y a toujours dans la langue.
Bernard Cerchini.
Pardon. Vous savez qu'il y a toujours dans la langue des exceptions, des scories, des héritages historiques. Les professions forme un vocabulaire de entre 25 000 et 30 000 termes, masculin, féminin. Au milieu, il y a 5 ou 6 termes qui s'expliquent tous. La sentinelle, emprunté à l'italien far la sentinella. Sentire, c'est écouter. Sentinelle, en italien, c'est le guet. Quand le mot a été adopté au XVIe siècle, il a signifié le guet. Et par métonymie, on a désigné par suite celui qui fait le guet. Et il en est de même, je le montre dans mon livre, de toute la série. Ce sont donc des exceptions. Eh bien, d'ailleurs, dans certains textes, on lit, dès le XVIIe, un sentinelle. Bien sûr, la langue a pris ses droits. L'aidron existe chez Colette et Saint-Exupéry. On voit bien comment la langue reprend ses droits. Mais laissons les choses en l'état. On dit une recrue, car la recrue, c'est simplement un accroissement d'une troupe. Et par métonymie, le soldat qui participe à cet accroissement, ainsi de suite. Gardons la sentinelle, le mannequin. D'ailleurs, le mannequin, quand il est repris par anaphore, il est repris au féminin. Le mannequin n'a pas pu venir, car elle est enceinte ou malade. Vous voyez, donc ce sont des petits détails qui ne viennent pas bloquer un fonctionnement général de la langue.
Mais et en même temps, on peut vous demander, Bérénice Levet,
parce que là, précisément, il s'agit de d'accepter
un héritage.
Voilà, oui, un héritage. C'est
fait, nous sommes d'accord.
Donc oui. Là, c'est pourquoi j'ai pas d'objection.
Mais alors justement, vous dites la langue et vous citez Hannah Arendt et en effet, cette phrase est très belle. Hein, dans la langue, ce qui est passé.
À son assise
indéracinable, et c'est sur la langue que viennent échouer toutes les tentatives de se débarrasser définitivement du passé. La polis grecque continuera d'être présente au fondement de notre existence politique, au fond de la mer, donc aussi longtemps que nous aurons à la bouche le mot politique. Et c'est dans un essai sur Walter Benjamin. Mais quelle place, vous, Bernice Levet, faites-vous à l'innovation, justement? Qu'est-ce qu'on a le droit de créer dans la langue?
Effectivement, la langue est sans cesse, malgré tout, renouvelée, mais pas renouvelée pour des mobiles idéologiques. C'est cela qui me dérange, parce que j'ai vraiment l'impression, effectivement, vous le disiez, du mécanique greffé sur du vivant. C'est un tel automatisme et simplement dicté par l'esprit du temps que je ne l'accepte pas. Pourquoi nous avons besoin de mots nouveaux? Pour désigner des réalités nouvelles. Et là, effectivement, les néologismes sont tout à fait pertinents. Mais ce n'est pas dicté par une idéologie. Et donc, pour moi, c'est vraiment le grand partage, évidemment, surtout qu'il y a une jubilation du mot nouveau qui va dire la chose et qui va, du même coup, nous la révéler, puisque c'est cela la vertu de la langue. C'est son pouvoir de révélation. Arendt disait, justement, face à des linguistes, elle disait, vous ne considérez que la valeur communicationnelle de la langue, moi, je m'attache à ce qu'elle appelait sa disclosing quality, donc sa valeur, sa qualité de révélation. Donc, effectivement, moi, je jubile quand un mot nouveau est créé, que là, il m'ouvre, il devient un véritable instrument de perception. Une réalité nouvelle se révèle à moi.
Oui, alors, nous sommes entièrement d'accord. Il faut des mots nouveaux, qui sont d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, des mots anciens, revenu pour des réalités nouvelles. La réalité nouvelle, c'est l'accession des femmes à toutes les professions. Ce n'est pas de l'idéologie, c'est un problème très simple qui s'est posé au Québec en 78, qui s'est posé en France en 83. C'est-à-dire que la fonction publique en France, c'est la circulaire d'Anis et Leport, Yvette Roudy, accès de tout le monde à la fonction publique, à tous les emplois. Il faut donc les nommer au masculin et au féminin.
Non, parce qu'on retrouve les vertus du neutre qui n'excluait pas les femmes. Parce que à ce moment-là, vous avez actuellement le Haut Conseil à l'égalité qui espère, dans le cadre de la révision constitutionnelle, réécrire, et donc vous pouvez aller sur leur site, ils ont proposé un modèle, toute la Constitution en langue inclusive, au sens large des différentes modifications que cela implique. Donc plus droits de l'homme, plus de droits de l'homme, des droits humains, plus de citoyens, des citoyens et des citoyennes, plus de fraternité, de delphité. Voilà, donc...
Non, madame, la fonction publique, c'est aussi des attachés, des conseillers, des chefs de bureau, des directeurs d'administration centrale, tout un vocabulaire qu'il convient de féminiser, ne serait-ce que pour les concours. Et d'ailleurs, allez voir le site de la fonction publique, tous les concours, maintenant, recrutent, et même des, je vais le dire, des sapeuses-pompières, ce qui a fait hurler Maurice Druon pendant des années. Il se trouve que les femmes ont accès. Et...
Qu'est-ce que vous pensez?
Mais c'est un problème.
Si on soumettait ce genre de néologisme au vote, est-ce que vous pensez que les femmes sapeurs-pompiers voteraient majoritairement en faveur de sapeuses-pompières? On n'en sait rien. Il serait intéressant de le faire. Comme ça, saurait plus sur la part de l'idéologie dans ce mouvement.
Ce vote, il a lieu tous les jours. Ce sont les locuteurs qui utilisent la langue. Il ne s'agit rien d'imposer.
Ils le font, ils ne le font pas spontanément, ils le font sous surveillance, justement. Ils se sentent contraints, obligés de féminiser cette langue. Ça ne peut pas être une spontanée, naturelle. Il y a véritablement justement, comme le disait Victor Klemperer, c'est comme de l'arsenic, comme des doses d'arsenic qui se glissent à force d'avoir les médias qui nous serinent cette inversion, cette préséance accordée aux femmes. Alors voilà, le discours ambiant se sent contraint d'adopter ces règles.
Madame, j'ai lu aussi Victor Klemperer, on ne va pas comparer la question de la féminisation et le langage des nazis, soyons sérieux.
Non, bien sûr, je parle seulement de cette image de la dose d'arsenic.
Quand vous dites que les personnes se sentent sous pression, la pression venait de l'Académie française qui, pendant 30 ans, a refusé la féminisation. J'en ai un témoignage. J'ai reçu, à la publication de mon livre, une lettre charmante d'un des responsables des Compagnons du Devoir, qui m'a écrit au seuil, la lettre m'a atteint, disant « Depuis quelques années, nous recevons des femmes aux Compagnons. Suivant l'Académie française, nous avons refusé de féminiser leur profession. Vous nous avez convaincus, et d'ailleurs l'Académie l'a fait ensuite, venez nous voir et aidez-nous à féminiser, ce qui est très facile, cellier, cellière, ainsi de suite. » Donc, la pression était plutôt... Oui, mais bien sûr, cafetier, cafetière, mais... cuisinière est ambigu déjà.
Oui, enfin.
Non, mais justement, moi, à l'inverse,
je termine.
Non, bien sûr.
Il ne s'agit pas de passer d'un purisme à un autre. Il s'agit de dire que les femmes qui veulent que l'appellation de leur activité, pour citer la lexie de l'Académie française, soit conforme à leur féminité, il s'agit de leur autoriser à le faire. L'Académie l'a fait, je m'en réjouis. Maintenant, si elle ne veut pas le faire, si elle veut s'appeler sapeur-pompier ou madame le ministre, libre à elle.
Ou avocat.
Ou avocat.
Je vous répète que là, les femmes de toutes les générations résistent à la féminisation. Elles sont avocates, elles se disent avocates, mais elles aiment le titre avocat à la cour et elles n'ont aucune envie d'y renoncer.
Rendez-vous dans 50 ans, à la Finkel Kraut. Mais je rappelle que avocate, mais nous y serons encore.
Vous, oui, parce que vous avez une santé de fer.
Mais je suis votre élève. L'Académie française, dans son édition de 1932, a adopté avocate.
Oui, oui.
Consoeur également, qu'elle n'emploie pas elle-même. Donc l'Académie en venait à être plus puriste que son propre dictionnaire. Je conclue, laissons un peu respirer la langue et laissons les femmes qui souhaitent que leur féminité soit traduite par leur profession, le faire. C'est tout.
Non, mais vous parlez d'une pression qu'exerçait l'Académie française. C'est faux. Parce que pour nous, justement, qui refusons cette féminisation, elle nous était un soutien. C'est-à-dire qu'elle nous laisse orphelins, là, en l'occurrence, en précisément ratifiant cette pratique. Nous pouvions toujours nous réclamer de l'autorité de l'Académie. Donc, c'était pas une pression qu'elle exerçait. Au contraire, on avait la pression de la société et nous avions au moins une institution à laquelle nous pouvions faire référence et justement obtenir que soient appliquées nos
pression,
exigences.
Je le redis, dois-je citer les déclarations de l'Académie en 84 jusqu'à 2014 les termes étaient violents.
Mais d'accord, mais ça ne règle pas l'usage qui est fait de cette féminisation.
Quand Madame Elisabeth Guigou, première femme à occuper des fonctions d'un ministre régalien, a dit qu'elle serait la garde des Sceaux, l'Académie française
a ricané,
gardienne, gardeuse des Sceaux, alors que garde se féminise aisément en changeant le déterminant. Non, il y a eu une pression qui est passée, ne remplaçons pas cette pression par une autre. Je l'ai dit,
malgré tout.
Mais alors, simplement,
si on
pression de l'Académie française, peut-être Bernard Cerchellini, mais l'image de l'Académie française... dans la société, c'est considérablement dégradé. L'Académie française était méprisée de l'avant-garde. Quand Paul Valéry est entré à l'Académie française, André Breton s'est moqué de lui. Il a considéré qu'il était mort pour la poésie, mort pour la littérature. Mais j'ai l'impression que ce mépris s'est diffusé dans la société et qu'aujourd'hui l'Académie française est risible dans tous les cas. Ce qui est extraordinaire d'ailleurs, j'ai sous les yeux un numéro du nouveau magazine littéraire où il est parlé, en matière de langue française, de l'inertie de la Réac Académie française. Réac Académie, et d'ailleurs, quand l'Académie française fait un pas vers l'adaptation, on continue à rire. Ah ben, il était temps, et maintenant, mais est-ce qu'ils vont aller plus loin? Ça fait rigoler, parce que c'est comme si l'autorité était passée ailleurs. Et ce ailleurs peut prendre des formes très inquiétantes, parce que oser le féminisme nous a exhortés à aller voir et revoir des films d'Agnès Varda pour lui rendre fémage. Ça vous fait rire aussi. Mais après tout, on est pris dans un processus qui est aussi celui de l'écriture inclusive. C'est ce que j'ai dit à mes confrères et consoeurs. J'ai dit, mais vous privez en, en disant que le neutre est mort, des arguments contre l'écriture inclusive, puisque l'écriture, vous le dites vous-même, cette écriture, Bernard Cerclini, est issue d'un désir de parité, elle est faite d'un ensemble d'attentions graphiques et syntaxiques permettant d'assurer une égalité des représentations entre les femmes et les hommes, notamment avec ce fameux point médian. Mais s'il n'y a pas de neutre, il y aura l'écriture inclusive, dont l'Académie a dit qu'elle était un péril mortel pour la langue. Et d'ailleurs, l'Académie s'est fait pisser dessus à cause de cette expression. Excusez-moi cette brutalité, mais...
L'Académie n'a pas simplement dit pour la langue, elle a dit également pour la littérature. Et justement, cette ratification de la féminisation de la langue est aussi accablant pour la littérature. Parce que, comment allons-nous lire les auteurs du passé? Avec une calculette et justement en observant qu'ils n'utilisaient pas le féminin des termes. Donc, tel auteur tombe sous le coup de l'accusation de sexisme, de machiste, d'être inamical aux femmes. Donc, de toute façon, la littérature, et c'est là, effectivement, que les arguments de l'Académie sont mis à bas par cette décision concernant, justement, l'écriture inclusive. Ils sont désarmés, désormais.
Excusez-moi de revenir au début de votre intervention, et nous parlerons après de l'écriture inclusive. Vous avez dit que actuellement, la réputation de l'Académie n'est pas bonne. C'est approuvé, et les échos ont été de la décision académique ont été très bons dans la presse.
Oui, je vous rappelle, vous êtes qu'ils rangeaient l'opinion de la presse. C'est ça, on disait, ils pensent comme nous. Voilà. C'est pas trop, mais il y avait un côté ricaneur, un côté trop tôt.
Oui. Oui. Alors,
enfin, tous les articles quasiment commençaient ainsi. Enfin.
Merci. Enfin. Mais d'abord, la critique de l'Académie, c'est un sport ancien qui a commencé au XVIIe siècle quand elle a mis près de 60 ans à écrire son dictionnaire. Tout le monde se moquait. Et on a cessé de se moquer de l'Académie, surtout quand on veut en être. Pensez à ce que Flaubert dit dans le dictionnaire des idées reçues. Donc, c'est une tradition à laquelle je n'appartiens pas, vous non plus. Deuxièmement, vous avez dit une chose extrêmement juste, mais trop rapidement. Vous avez dit, certains ont dit, enfin, et étudiant ce que veut dire cette décision, ce que j'ai fait dans mon texte. L'Académie, par cette décision, a pris en compte l'usage francophone, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que on a là un changement profond dans l'histoire de l'Académie qui a été fondée pour donner des règles claires à la langue, statut de 1635, à une époque où quelques millions à peine de Français parlaient en France. On a maintenant 300 millions de locuteurs et des gens dont c'est la langue maternelle et qui la font vivre. On peut le regretter comme vous, madame, moi pas, qui invente des mots, et j'ai publié un livre intitulé « Enrichissez-vous par les francophones », qui fait la liste de toute une série de mots inventés au Sénégal, en Belgique, au Québec, et que nous pourrions adopter. Une langue qui vit, et d'où la question de l'Académie. Je crois que c'est ça. L'Académie vient d'entrer dans le 21e siècle, elle s'est rendue compte qu'elle doit donner des règles à une langue qui est mondiale. C'est la question de la norme qui est posée.
Oui, c'est effectivement, cet oubli d'un enracinement dans la littérature proprement française qui pose un problème très grand. Et effectivement, vous citez cette phrase, le français s'est au fond émancipé de la France. Mais c'est une phrase épouvantable.
Voilà, le président Emmanuel Macron. Devant l'Académie. Le 20 mars 2018.
Voilà, c'est cela. Et donc, comment on sombre dans un oubli de cette spécificité quand même française et de cet ancrage, cet enracinement.
Faut-il pleurer l'époque où on ne parlait français qu'en France et un petit peu en Belgique, ou se réjouir de la vivacité mondiale du français?
Mais on parlait
Emmanuel
la
Macron,
France parce que...
avec des accents à la glissant, a raison de dire, le français s'est émancipé de la France.
C'est une langue mondiale. C'est précisément parce qu'il y avait chez ces auteurs une admiration pour la langue française, dans ce qu'elle constituait par ces grands auteurs, parce qu'ils entendaient résonner les vers des poètes, la langue écrite.
Vous mettez glissant parmi ces grands auteurs, bien sûr.
Oui. Ça, écoutez, il faudrait.
Vous ne le faites pas.
Je ne suis pas tout à fait sûr. Je ne suis pas. Je suis moins sensible que vous au lyrisme d'Édouard Glissant, mais c'est une autre question. Simplement, Alain disait Comment apprend-on une langue par les grands auteurs, non autrement, par les phrases les plus serrées, les plus riches, les plus profondes, et non par les niaiseries d'un manuel de conversation. Bon, laissons les manuels de conversation, parce que il n'y a pas cela. Non, c'est ça qui est important, parce que Bernard Cerchellini, vous parlez sans cesse de la vitalité de la langue, de son évolution, de ses innovations. Mais est-ce que l'évolution est toujours bonne? Parce que après tout, on a envie de... Vous citiez Emmanuel Macron, en marche. Oui, d'accord, mais en marche vers quoi? Si on marche vers le précipice, vaut mieux s'arrêter. Et tout laisse à penser aujourd'hui que au Québec, comme en France, la langue française va très mal.
Bien sûr, c'est pourquoi le
vocabulaire se rabougrit, la syntaxe s'effondre, le globish
se répand
à une vite... Des exemples. Une ministre de l'éducation nationale qui dit, Najat Vallaud-Belkacem, les parents ne comprennent juste rien à comment travailler à la maison. Et c'est à comment ou sur comment, ce qui se répandent à une vitesse absolument extraordinaire.
C'est la langue populaire depuis toujours.
Oui, sauf que
c'est pour ça qu'elle est ministre.
On peut le regretter.
Elle est ministre, et moi j'ai toujours en tête les premières lignes du livre de Robert Redeker, L'école fantôme. Écoutons nos contemporains, tournons le bouton d'un poste de radio, allumons notre téléviseur, branchons-nous sur quelques réseaux sociaux, Facebook ou Twitter, parcourons les colonnes des journaux, etc. Nous ne tarderons pas alors à rédiger un avis de recherche dans les termes suivants. Quelque chose a disparu de notre paysage auditif. Un ersatz est venu remplacer cet absent. Quelle chose? Quel ersatz? La langue française. Ce n'est plus la langue française que nous entendons. Ce n'est plus elle que nous, que nous lisons. Et effectivement, on fait cette expérience tous les jours. Aujourd'hui, le bonheur pour vous, c'est quoi? Demande un journaliste. Et aussi, la solution, c'est quoi? Le meilleur candidat, vous pensez que c'est qui?
C'est quoi comme interrogation? Je l'ai trouvé dans La condition humaine d'André Malraux. Donc, c'est une chose assez ancienne.
Qui plus est, l'énorme enjeu, c'est que dans notre civilisation, dans la civilisation française, et Mona Ozouf l'a magnifiquement montré, c'est que les femmes étaient les gardiennes de la langue. Donc là, véritablement, il y a une cause commune entre la langue et les femmes. Et quand tout à l'heure je parlais d'éléphants dans un magasin de porcelaine, c'est précisément par rapport à cela. C'est, vu l'état dans lequel se trouve la langue, on devrait se sentir mais les obliger de cet héritage plutôt que de se réjouir de l'avoir toujours plus détruite et surtout mise à notre disposition.
Bernard Cerchellini.
Vous avez dit que les femmes sont gardiennes de la langue et qu'il y a une sorte de pacte entre elles et la langue. Vous avez raison, la féminisation le montre.
Moment où
elles ont féminisé leur titre et leur fonction. Elles avaient raison. Tout à l'heure, vous avez dit à Alain Finkielkraut, au début de votre intervention, toute innovation en langue n'est pas forcément bonne. Bien sûr, c'est pour cela qu'il y a une Académie française. Et c'est pour cela qu'il faut une Académie francophone, ou du moins une alliance de diverses institutions au Québec, au Sénégal, en Belgique, qui disent la bonne norme actuellement. C'est ça qu'il convient de faire. Il faut un dictionnaire qui puisse donner des variantes. Françaises, québécoises, qui sont bonnes. Il y a un bon usage québécois,
mais de toute façon, il y a
un bon usage belge. Et au nom de quoi ces bons usages sont méprisés par nous?
Mais la question que je vous pose à tous les deux,
c'est fondamental.
C'est est-ce que ce bon usage se perd? Autrement dit, peut-on parler d'une crise de la langue française aujourd'hui, où qu'elle soit parlée, ou ce diagnostic est-il injustement pessimiste à vos yeux, Bernard Cerchellini?
Tout à l'heure, vous avez parlé un peu crûment, je vais le faire pour une fois. Ce fonds de commerce réactionnaire me fatigue.
Me fatigue.
Le discours sur la langue que l'on ne parle plus commencé...
Comment vous ne pouvez pas être blessé, mais offensé en permanence.
Le discours sur le déclin de la langue française a été montré par tous les bons travaux. A commencé au XVIIIe siècle. quelqu'un au XVIIIe siècle a dit « Nous ne parlons plus français. Nous parlons un jargon qui va bientôt disparaître. » Cet homme, c'est Voltaire. Laissez-moi terminer. Pour une raison simple que je voudrais dire enfin, c'est que les gens comme Voltaire considéraient que la langue avait atteint son sommet au siècle précédent avec Racine, Corneille et Quidot, et qu'on ne faisait que décroître. On a donc un discours du déclin.
D'accord.
Depuis, quand vous parlez de crise du français, mais il y a un livre en 1920 qui parle déjà de crise du français. J'ai dans ma bibliothèque tous les livres sur le déclinisme. Ils datent du 19e siècle. S'ils avaient raison, la langue française aurait disparu. Elle est mondiale. Donc, il est évident qu'au 15e siècle, au 17e, au 19e, des gens faisaient des fautes, que le peuple ne parlait pas comme les élites. Mais rien ne prouve qu'actuellement, le français se décompose, comme vous dites. N'oubliez pas que là, vous faites partie d'une tradition. J'ai parlé de fonds de commerce, excusez-moi, le mot m'a échappé, mais à la Finkielkraut, je le pense.
Non, il y a une chose que vous ne prenez pas en considération. Évidemment que les discours déclinistes, sur tous les thèmes, vous pouvez reprendre cet argument. Il y a une chose qu'il faut prendre en considération, et justement, c'est ce que j'évoquais dans mon crépuscule des idoles progressistes. Je suis née dans les années 70, j'ai donc grandi dans cette école, et parmi justement des adultes qui ont renoncé à nous transmettre le vieux monde et à commencer par la langue. Donc aujourd'hui, on a véritablement le résultat de 40 ans, 45 ans de démission. C'est toute la différence avec la démocratisation de l'enseignement. On aurait pu au contraire s'attendre à une véritable transmission opérer plus largement, parce que quand vous me dites qu'il y a toujours eu des gens qui ont mal parlé le français, naturellement, mais là on assiste en même temps à la démocratisation de l'enseignement, sauf que justement la langue, notamment la grammaire, la syntaxe, la richesse du vocabulaire, ne nous ont plus été transmis, et donc il a fallu précisément compenser, ou alors avoir la chance d'être dans certains établissements. Bon, voilà, mais vous ne tenez absolument pas compte de cette différence majeure à partir des années 70. Je ne parle jamais de mai 68. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se met en place à partir des années 70 et qui perdure jusqu'à aujourd'hui.
Alors, moi, je voudrais vous citer une phrase de Nicolas Gomez d'Avila. « L'âme cultivée est celle où le vacarme des vivants n'étouffe pas la musique des morts. » Et le vacarme des vivants aujourd'hui étouffe la musique des morts, et les vivants parlent mal. Et je voudrais simplement ajouter, j'ai parlé du globish, est-ce que vous voulez, Bernard Cerclini, que je vous fasse la liste des termes en globish, entre la Fashion Week,
non,
le Black Friday, les youtubeurs, les winners,
globish,
etc.
Mais ça, c'est pas
grâce à une langue française mondiale. Mais si nous défendons la langue
Bernard
mondiale,
Cerclini,
il faut aussi en accepter la variété. Vous comprenez? Bien sûr que je lutte contre cet anglais d'aéroport, mais je lutte au nom d'un français riche et beaucoup plus souple. Ce n'est pas en pleurant la langue de Kino que nous allons résister à la pression américaine. Soyons.
Pourquoi Kino?
Parce que pour Voltaire, la langue française avait atteint son sommet avec Racine, Corneille et Kino, ce qui est étonnant quand même. Donc, et madame, vous avez parlé de vous-même. Puis-je aussi pour une fois parler de moi? Il se trouve que j'ai dirigé l'enseignement primaire il y a longtemps, j'ai même écrit les programmes de Jean-Pierre Chevènement, de l'école, un affiche quelqu'un le sait, et avec Georges Laforêt, donc j'aime l'école de la République, je lui rends hommage, et il se trouve que personnellement, j'ai des enfants jeunes à l'école publique de Courbevoie, dont les petits copains s'appellent Louane, Mohamed, etc. Eh bien, ils font de la grammaire, ils font de la dictée, et je rends hommage à l'école de la République.
Peut-être qu'au bout de 45 ans, on s'aperçoit quand même de l'éboulement.
Le niveau d'enseignement de la grammaire est très exigeant. Allez dans une école de la République, Alain Finkielkraut, allez voir ce qu'on y fait, regardez les programmes. L'école de la République est digne.
Oui, l'école de la République est digne.
Oui.
Mais quand François Fillon, ministre de l'Éducation nationale, avait voulu réintroduire la dictée, ça avait fait les gros titres du Monde, c'était dénoncé comme une mesure réactionnaire, et François Fillon lui-même m'avait dit que son directeur de cabinet avait démissionné après avoir signé le décret parce que ça allait à l'encontre de tout ce qu'il pensait de l'éducation. Et il est clair qu'aujourd'hui, on est en train de rebâtir, sous l'impulsion d'un ministre de l'Éducation qui rompt avec l'esprit de la réforme, sous l'empire duquel l'école vivait depuis 40 ou 50 ans, mais c'est un... c'est un redressement
que nous saluons,
heureux, que nous saluons.
Voilà. Et
en espérant qu'il n'y vient pas trop tard.
Parce qu'on commence à prendre la mesure de la catastrophe civilisationnelle et même anthropologique qu'ont engendré. C'est qu'a engendré cette éducation progressiste. Donc effectivement, là, peut-être que on prend certaines mesures pour redresser les choses, mais on ne peut pas du tout nier cet état de dégradation de la langue. Et par rapport à Alain Finkielkraut, ce que vous disiez concernant le globish, moi, je ne suis pas sûre que ce soit ce qui est plus grave, les mots en anglais, parce que ce qui me semble le plus préoccupant, c'est la question de la syntaxe, de la maîtrise des nuances. C'est là que je souffre le plus. C'est pas
quand,
tant
quand
de
souffrez-vous
voir que...
en écoutant la radio.
Oui, mais
France Culture.
Mais moi-même, ma langue n'est pas exemplaire. Mais moi-même, ma langue n'est pas exemplaire à l'oral.
Aucune langue n'est exemplaire à l'oral. Le français oral est fort différent de français écrit.
Non, je pense que plus on est imprégné de la langue écrite et plus notre langue orale emporte témoignage et plus nuancé et mieux articulé. Il y a un véritable lien entre l'un et l'autre.
Il faut lire.
Ah, infiniment.
La syntaxe orale est plus souple depuis longtemps.
Mais plus souple, c'est une chose. Plus
on a le journal des rois qui était le journal du jeune Henri IV, le jeune. Il a noté tous ses pipis, tous ses cacas, tous ses rhumes. Mais tout ce qu'il dit, le jeune roi, 17e siècle, début 17e, il dit « je veux pas ». C'est-à-dire que le « ne » avait déjà disparu à l'oral.
Vous êtes bien d'accord que pendant longtemps, la langue publique, justement, quiconque avait un discours public avait une langue qui pouvait être savoureuse. Et d'ailleurs, dans les grands films, c'est ce qui nous séduit.
Qu'est-ce que le bon usage aujourd'hui?
C'est
la question. Alors, on termine sur cette question. Vous reviendrez. En tout cas, je vous remercie de cette discussion très intéressante et très vive. Bernard Cerchilini, vous avez publié La ministre est enceinte, ou La grande querelle de la féminisation des noms, aux éditions du Seuil. Bérénice Levet, vous êtes l'auteur de Libérons-nous du féminisme, Nation française, galante et libertine, ne te renie pas, aux éditions de l'Observatoire. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Qu'est-ce qu'un bon professeur ?» Et je suis incorrigible, je dis un bon professeur. Et mes invités seront pourtant Mathilde Brézet et Émeric Patricot. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et François Connac. À la technique aujourd'hui, Marie Le Peintre. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.